Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Les énergies fossiles sont couramment utilisées pour des besoins domestiques ou industriels. Il s'agit des produits tels que le pétrole, le charbon ou le gaz naturel. D'après les experts, ces combustibles peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement. Quels sont donc d'abord les avantages qu'ils présentent et quels sont les risques sur l'environnement, les risques de l'utilisation des combustibles fossiles? On en parle aujourd'hui avec Eric Kassongo, directeur du Centre Congolais pour le Développement du durable. Monsieur Rick, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par énergie fossile?
Eh bien, les énergies fossiles sont tout simplement les énergies qui sont tirées des combustibles fossiles. Ce sont des énergies qui nous permettent d'avoir accès à l'électricité, qui produisent la chaleur sous différentes formes et qui permettent en fait, qui ont été à l'origine en fait de l'évolution industrielle du monde tel que nous le vivons aujourd'hui. Et l'électricité que nous avons, les moteurs des véhicules ou des industries, des centrales.
Les groupes électrogènes.
Oui, les combustibles font fonctionner aussi les groupes électrogènes, ainsi de suite. Donc, ils sont à multiples usages.
Alors, quand on parle de ces combustibles, il s'agit notamment de quoi? Du pétrole? On voit les carburants, le pétrole?
Il s'agit principalement, ce qu'on appelle les combustibles conventionnels, il s'agit principalement du pétrole, et du charbon et du gaz naturel.
Voilà, c'est ça qu'on appelle énergie fossile. Mais fossile, que veut dire cela? Fait référence à quoi?
Mais tout simplement, les fossiles, c'est que ce sont des matières organiques qui proviennent des végétaux ou des empreintes animales et qui sont enfouies sous le sol, dans des roches et qui se sont accumulées depuis plusieurs années. Et ils produisent des matières qu'on appelle kérogènes. Ce sont des matières qui contiennent ce que nous appelons aujourd'hui des hydrocarbures et qui sont enfouis en fait sous le sol. On peut le trouver sous la mer ou encore dans les roches, sous la terre solide. Alors, vous trouvez des énergies ou encore combustibles qui sont considérés comme liquides. Donc, c'est le pétrole. Mmh. Vous avez les combustibles qui sont considérés comme qui sont solides, qui sont les charbons. Et puis, il y a des combustibles qui sont gazeux. C'est le gaz naturel, par exemple, qu'on trouve ici chez nous en RDC, dans les lacs Kivu, mais qui n'est pas exploité, mais qui existe dans d'autres pays sous différentes formes et qui alimente le fonctionnement de plusieurs centrales électriques qui font fonctionner beaucoup d'industries et beaucoup de ménages à l'étranger.
Même à la maison, il semble qu'il y a des réchauds à gaz, il y a des réfrigérateurs qui fonctionnent avec le gaz.
Exactement. Mmh. Exactement. Ce sont donc des choses qui sont à la portée, à l'usage de l'être humain qui l'accompagne tous les jours, qui aide au développement économique. Il y a beaucoup d'industries transformatrices qui fonctionnent à l'aide de ces différentes énergies, qui utilisent les gaz naturels, qui utilisent les charbons, qui utilisent aussi le pétrole avec ses dérivés, quoi.
Voilà. Quels sont les avantages, parlons d'abord des avantages que présentent ces énergies fossiles?
Bon, les avantages, c'est que nous pouvons considérer le développement du monde actuel comme étant à l'origine, ayant bénéficié en fait des combustibles fossiles. Parce que nous n'aurions pas connu le développement que nous avons aujourd'hui sans les combustibles fossiles. Le 18e siècle a été le point de départ du développement des énergies fossiles qui a boosté l'économie mondiale et qui a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes, le monde entier est dépendant à 80% des énergies fossiles parce que la consommation en premier lieu du pétrole est considérée comme la source qui fait vivre non seulement les industries mais les ménages dans le monde entier. Donc déjà 80% de ces combustibles interviennent dans notre vie quotidienne. Donc, ils ont un avantage considérable dans notre vécu quotidien. Et pour les pays qui sont très développés, ça ces combustibles sont responsables de leur développement économique et de leur transformation.
Même le charbon, il y a certains pays qui continuent à utiliser le charbon comme source d'énergie.
Toutes ces énergies-là, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, au jour d'aujourd'hui par exemple, je donne l'exemple du charbon parce que le charbon est considéré comme une des plus importantes et aussi une des plus dangereuses de ces combustibles fossiles-là. Des pays comme la Pologne en Europe par exemple ont une économie essentiellement construite sur le charbon. Et au jour d'aujourd'hui, on parle de pays émergents, la Chine et l'Inde. En fait, si la Chine et l'Inde ambitionnent aujourd'hui de devenir aussi des pays développés, c'est parce qu'ils sont en train d'exploiter à outrance les charbons. Oui. Donc le charbon est à l'origine d'un développement accentué de beaucoup de pays parce qu'il fait fonctionner beaucoup d'industries et beaucoup de centrales électriques, mais ça ne se fait pas sans dégâts. Quoi.
Alors parlons maintenant des dégâts ou des risques, des dangers que ces énergies fossiles ont sur les dangers qu'ils représentent pour l'environnement.
Ah bon, il y a plusieurs sortes de dangers, mais les principaux dangers au jour d'aujourd'hui, c'est en fait les émissions des gaz à effet de serre que mettent ces combustibles-là. Au jour d'aujourd'hui, les combustibles fossiles participent à eux seuls à 82% des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises dans l'atmosphère et qui, vous le savez, sont responsables du réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est un des dangers principaux.
82%.
Il y a des pourcentages qui sont répartis par rapport à ce que chaque combustible fournit. Alors, en dehors de ces émissions de gaz à effet de serre, vous avez la pollution atmosphérique et la pollution des eaux. Elle provoque la pollution des eaux et la pollution des atmosphériques. Les combustibles fossiles sont également responsables de nombreux cas d'accidents mortels. Pour la petite exemple, par exemple, les spécialistes disent qu'entre 1 à 2 millions de personnes meurent dans le monde à cause des combustibles fossiles et la moitié de ces personnes-là meurent à cause de la pollution atmosphérique. C'est vous dire les dangers que ça représente. Un autre danger, pas le moindre, c'est l'acidification des eaux. On considère que partout où s'exploitent les combustibles fossiles, les eaux s'acidifient à travers des matières comme l'oxyde de soufre qui a un impact direct sur les écosystèmes, sur la faune, ainsi de suite.
Voilà, on va revenir à ça, le temps d'accueillir deux auditeurs. Guy Mendelo nous appelle de Kikwit et Serge Makaka de Kinshasa. Nous parlons aujourd'hui de l'utilisation des énergies fossiles. Quels sont les avantages et surtout quels sont les dangers pour l'environnement?
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Utilisation des énergies fossiles, quels sont les avantages, quels sont les dangers? Ogui Bendelo, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité, je salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment.
On vous écoute, quelle est votre préoccupation?
Oui, jeudi, je viens auprès de notre invité avec comme question. J'ai une seule question. J'ai bien suivi l'invité quand il expliquait là. Alors, j'ai voulu lui poser la question. Il a parlé du taux même de la mortalité, des pourcentages là qui est très élevé. C'est pourquoi lui qui est spécialiste et plongé dans la matière, j'ai voulu lui poser la question parce que souvent on voit cela qui n'est pas très bien gardé. Des fois, les gens sont. Vous entendez des bruits, oh, Moussakanamina Kouraï, c'est ci ou c'est là. Quelle peut être comme précaution ou bien qu'est-ce que nous devons prévoir pour que ce taux-là de mortalité puisse soit terminer, soit diminuer? C'était là ma seule question aujourd'hui. Merci beaucoup.
Oui, Ogui, il n'a pas parlé des taux de mortalité. Il dit que ces énergies fossiles polluent, sont responsables de l'émission des gaz à effet de serre à 82%.
Ok, merci. Je dis ça que peut-être c'est moi qui ai mal compris. Alors, je pose la question pour savoir.
Désolé, il y a une coupure, il n'est plus en ligne. Serge Makaka, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je salue tous les auditeurs de la radio Okapi et je salue notre invité. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la réponse ou la permission de parler à cette émission. Je voulais seulement savoir l'impact qu'a le charbon sur la pollution atmosphérique. Puisqu'à mon humble avis, je sais bien qu'il y a des avantages pour les énergies fossiles et puis il y a des inconvénients. Maintenant, je veux savoir quel est l'avantage ou l'impact qu'a le charbon par rapport à la pollution atmosphérique. Merci beaucoup, je vous remercie.
Bien, Jérémy Dodeban d'Undouville, bonjour.
Bonjour, Maxé.
C'est Jody, on vous écoute.
Oui, bon, j'ai deux types de préoccupations à poser à l'invité. Donc, je vois l'émission a un impact vraiment très capital sur nos maisons ou bien sur nos ménages. L'invité peut nous expliquer tous ces mots-là qu'il est en train de dire, même à Lingala, parce qu'il y a des mamans qui suivent des émissions-là. Bon, les mots qu'il explique vraiment en français, ça pose beaucoup de problèmes. Deuxième type de préoccupation, je ne sais pas, les bois. Dans l'ancien temps, nous utilisons seulement les bois pour la préparation de nos aliments. Je ne sais pas, est-ce qu'avec les énergies fossiles et les bois, est-ce qu'il y a un impact là-dedans? Si l'invité peut nous expliquer cela.
Merci. Monsieur Eric, vous avez suivi les préoccupations des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a que deux préoccupations pour l'instant. Celui qui demande l'impact du charbon sur la pollution atmosphérique. Ben, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le charbon est à l'origine d'une très grande pollution atmosphérique qui est à l'origine de beaucoup de cas d'accidents mortels. Cette pollution atmosphérique vient du fait que la plupart des centrales électriques qui utilisent le charbon émettent des gaz qui peuvent être nocifs pour la santé, comme je l'avais expliqué, et qui sont testés. Et ces dangers-là, c'est pas seulement pour les gens qui vivent dans les environs de là où s'exploite, mais c'est aussi pour des personnes qui travaillent dans les mines de charbon. Ici, il faut faire la différence entre le charbon de bois qui est produit à partir des arbres. Et
qu'on appelle cône ici.
On appelle makala.
Makala pour la cuisson des animaux.
On appelle makala pour la cuisson des animaux. Avec le charbon de mine qui est utilisé en fait pour faire fonctionner des centrales électriques, pour faire fonctionner des engins industriels pour produire de l'électricité, ainsi de suite. Donc il y a une part de choses. Donc le charbon dégage beaucoup de matières toxiques, dont les dioxydes de carbone, qui est nocif non seulement à la santé, mais aussi à la nature en termes d'émissions de gaz à effet de serre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le charbon contribue à 35% des émissions de gaz à effet de serre seulement dans toutes les formes où ils sont exploités. Alors, La deuxième question, je n'ai pas très bien compris ce qu'il veut dire par bois énergie. Ce que monsieur peut savoir, c'est que le bois...
C'est que dans nos villages, on utilise les bois de chauffe hein, pour la cuisson des aliments. Alors,
oui.
Il veut savoir, est-ce que cela aussi a un lien, a un effet?
Le bois de chauffe a un effet, mais ça...
Sur la pollution.
Sur la pollution, mais c'est un autre problème. C'est un problème lié à la déforestation. Comme nous le savons, la déforestation contribue aussi à sa manière aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a toute une politique qui tend à décourager l'usage abusif des charbons de bois et même de bois parce que la déforestation engendre les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on est en train d'encourager les gens à aller moins vers la forêt, à moins utiliser. Ceux qui font le voyage sur la route du Bas-Congo peuvent s'apercevoir de comment les arbres ont pratiquement disparu parce que les périphéries de Kinshasa sont alimentées par des arbres qui sont coupés tout autour de nous sur la route du Bas-Congo ou du Bandundu pour nous alimenter en makala. Ça aussi, ça contribue et c'est responsable des émissions de gaz à effet de serre. C'est comme ça qu'il y a toute une politique, pas non seulement pour faire du reboisement, mais aussi pour freiner cette déforestation sauvage qu'il y a autour de nous. Mmh. Mais je pense que ça, ce n'est pas notre sujet.
Notre sujet du jour. On parle des hydrocarbures, les pétroles. Les hydrocarbures, aujourd'hui, beaucoup de véhicules utilisent les carburants et puis nous avons des tuyaux d'échappement qui libèrent dans l'atmosphère la fumée qui pollue l'environnement également. Alors, c'est à quel pourcentage, par exemple?
Bon, les hydrocarbures, lorsqu'on fait les calculs pour établir les pourcentages, on le verse dans le cadre des pourcentages qui sont retenus pour le pétrole. Parce que l'unité ici, pour mesurer, c'est le pétrole brut. Parce que du pétrole émane l'ensemble des hydrocarbures qui restent après toutes les transformations que le pétrole brut subit. Donc, le pétrole, dans l'ensemble, y compris tous les carburants dont vous parlez, contribuent à 31% des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et surtout, les véhicules diesel, qui sont considérés comme beaucoup plus polluants et plus émettrices des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est comme ça qu'il y a une politique de promotion des véhicules qui roulent avec une énergie durable. Il y a aujourd'hui, on parle des biocarburants, et il y a aussi des procédés techniques qui permettent que des véhicules électriques, par exemple, puissent rouler. Tout ça, c'est pour pallier à deux problèmes, c'est-à-dire à la disparition prochaine des gisements pétroliers, parce que ce sont des énergies non renouvelables, et aussi au danger qui représente l'utilisation abusive de tous ces carburants qui proviennent de pétrole, qui est une énergie fossile.
Voilà, vous étiez en train de parler des dangers, vous avez parlé de l'émission des gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique, la pollution des eaux, vous avez parlé de l'acidification des eaux, c'est ça?
Oui.
Et y a-t-il d'autres dangers que ces énergies fossiles représentent pour l'environnement?
J'ai parlé des accidents mortels qui sont provoqués par l'utilisation des charbons, par exemple, parce que pour la petite explication, le charbon est exploité dans des mines souterraines. Et ces mines souterraines-là, on y envoie des gens qui entrent là-bas, qui travaillent. Parfois, il y a beaucoup d'éboulements qui se font, il y a beaucoup de cas d'incendie, il y a même des inondations souterraines qui fait que plusieurs personnes meurent lorsqu'on fait l'exploitation de... Rien qu'en Chine, par exemple, on dit qu'entre 10 000 et 20 000 morts par an des gens qui meurent pour l'utilisation de charbon. Alors, en dehors de ces cas de mortalité directe, il y a aussi une forme de mortalité différée qui fait que certaines maladies professionnelles proviennent de l'utilisation ou des personnes qui ont été trop en contact avec le charbon. Alors, plus politiquement, sur le plan géostratégique, un autre danger important, c'est que l'utilisation ou la rareté des énergies fossiles peut être à l'origine des conflits politiques. Parce que la crise mondiale aujourd'hui, si beaucoup de gens ne le savent pas, c'est une crise qui est énergétique. C'est qui contrôle le pétrole, qui contrôle l'énergie. Vous n'êtes pas sans savoir la Russie, par exemple, est en train de jongler avec son gaz, avec l'Union européenne, avec l'Ukraine notamment. Ça, c'est une crise énergétique. Donc, un autre danger,
en Afrique, il y a certains pays qui sont en conflit parce que les deux cherchent à contrôler une bande ou une zone où il y a du pétrole.
Exactement.
Une bande frontalière.
La RDC, par exemple, la RDC régorge beaucoup de cours d'eau dans son pays. C'est une puissance énergétique qui est enviée par beaucoup d'autres pays. Donc, c'est pour dire que sur le plan politique, la rareté des produits fossiles peut provoquer des crises. Nous nous souvenons tous de la guerre en Irak, dont nous savons tous que c'est une guerre qui a été provoquée par l'hégémonie sur la substance qu'est le pétrole.
Voilà. Alors, Monsieur Eric, est-il opportun de parler des dangers de l'utilisation des énergies fossiles aujourd'hui dans notre pays, et surtout que nous ne sommes pas parmi les grands pollueurs et nous avons la réserve mondiale, nous sommes le deuxième poumon du monde?
C'est très important de parler des énergies fossiles dans notre pays parce que la RDC, dois-je le rappeler, est signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s'est assignée comme mission de stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et cette mission-là, c'est une mission mondiale qui a été confiée à toutes les nations du monde parce que nous partons du principe d'une responsabilité commune mais qui est différenciée. Cette responsabilité commune tient au fait que le réchauffement de la planète touche toutes les nations du monde. Et donc, à partir de cela, la RDC a la responsabilité déjà maintenant de commencer à réfléchir sur la meilleure manière de se doter des énergies qui sont considérées comme plus durables et de mettre en œuvre, si vous voulez, de manière rationnelle. Vous savez que nous avons des gisements de pétrole dans le Graben Est, dans le parc de Virunga, il y a encore à Mwanda où la société Perenco est en train d'exploiter. Eh bien, la responsabilité de la RDC à l'heure actuelle, c'est de faire non seulement un bon usage, un usage rationnel de ces ressources dont elle dispose, pour contribuer à sa manière à sauver la planète, mais aussi de commencer à songer à virer vers les énergies renouvelables. Et c'est là toute la substance de la campagne que nous avons lancée, et le Congo Power Shift, qui tend à lutter contre les combustibles fossiles, mais à proposer aussi que nous puissions virer vite vers les énergies renouvelables, qui sont considérées comme des énergies durables. Parce que les spécialistes disent que, dans quelques temps, les combustibles fossiles vont disparaître.
Voilà. Les combustibles fossiles vont disparaître dans quelques temps. Utilisation des énergies fossiles, avantages et dangers pour l'environnement, on en parle aujourd'hui avec M. Eric Kassongo, directeur du Centre Congolais pour le Développement Durable. Des questions et préoccupations, on n'attendait pas les dernières minutes. Appelez-nous au 081 890 63 94.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mails. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mails, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Bien, utilisation des énergies fossiles, danger, les avantages et dangers pour l'environnement. Monsieur Eric, vous avez parlé qu'il est important que la RDC aujourd'hui pense déjà à utiliser les énergies renouvelables. Quelles sont ces énergies?
Eh bien, comme je l'avais dit la fois passée, vous avez plusieurs sortes d'énergies renouvelables. Vous avez les énergies, l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Vous avez la géothermie. Vous avez d'autres formes d'énergie, mais plus principalement, au jour d'aujourd'hui, le plus courant parmi les énergies renouvelables, c'est l'énergie solaire. La RDC a un potentiel énorme pour développer ces énergies-là et pouvoir résoudre par les problèmes de la desserte en électricité qui est très faible comparé à d'autres pays africains qui sont considérés comme disposant de moins de ressources par rapport à elle aujourd'hui. Je rappelle que la desserte aujourd'hui en électricité en inversé de 8%, ce qui est très insignifiant malgré nos deux barrages hydroélectriques. Une autre source d'énergie renouvelable qui est encouragée aujourd'hui officiellement par le gouvernement de la RDC, ce sont les micro-centrales hydroéloélectriques que le gouvernement se propose de construire, mais qui sont encore en attente de financement. Voilà ce que je peux dire brièvement sur les énergies renouvelables qui peuvent être développées ici en RDC.
Maintenant qu'on a le pétrole, pourquoi ne pas, on peut continuer à l'exploiter?
Tout à fait. Le pétrole est un produit qui peut booster l'économie du pays, qui peut accélérer les développements. Seulement, la responsabilité qui est celle de la RDC, c'est de veiller à ce que cette exploitation se fasse de manière rationnelle. J'ai rappelé tout à l'heure que nous sommes encore dépendants de 80% des énergies fossiles. Donc nous ne pouvons pas complètement nous débarrasser de ces énergies passives fossiles parce que nous en dépendons. Mais nous avons une responsabilité morale par rapport à la mission assignée à toutes les nations de concentrer les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'homme parce que ce sont les activités humaines qui provoquent les émissions de gaz à effet de serre. Et par rapport à cela, nous avons une responsabilité pour nous assurer d'une gestion rationnelle, en même temps de développer des énergies qui sont plus durables et qui sont renouvelables. Je rappelle que les énergies fossiles ne sont pas renouvelables. Leur stock tend à s'épuiser et leur reconstitution dans les roches géologiques prend des millénaires pour que nous puissions encore les utiliser.
Patient Paul nous appelle de Kinshasa. Bonjour Patient.
Bonjour Sandy, donc ainsi qu'à l'invité et tous les auditeurs de la Radio Capi.
Et on vous écoute patient, veuillez fermer votre radio, vous allez suivre à partir de votre téléphone ou veuillez vous éloigner de votre récepteur pour éviter les feedbacks à l'antenne. C'est fait?
Et c'est fait donc, papa.
Merci, allez-y.
Oui, donc j'ai quelques préoccupations à poser à l'invité. Et quelles sont les maladies que peuvent avoir la population face à toutes ces énergies? Car on voit dans le pays développé, les autorités donc soumettent un dédommagement aux sociétés qui polluent donc l'environnement. Jusqu'à quel point ces autorités-là vont annuler certaines activités qui devraient donc se dérouler pendant la journée? Est-ce qu'au Congo, avons-nous aussi les entreprises qui polluent donc l'environnement et quelles sont les stratégies donc que l'État met à leurs endroits? Et la troisième préoccupation est de savoir, Est-il vrai que la fumée qui sort d'un véhicule a aussi l'impact sur les aliments qu'on consomme? Car nous constatons à Kinshasa un véhicule qui fume jusqu'à tel point cette fumée crée l'embouteillage en allant même créer aussi les accidents. Voilà, c'est pas simple depuis Kinshasa.
Merci. Félix, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Zébi, et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Félix.
Ah oui, j'avais une préoccupation. Bon, ma préoccupation est basée sur les stations services. Hein. Ici, je constate que depuis ces derniers temps, il y a une prolifération de stations services de carburant. Donc, vous pouvez compter même à 300 mètres, 200 mètres. Comme là où je suis, à mon domicile, là, je suis entouré d'environ 3 stations services. Alors, je voulais savoir s'il y a un danger. Cette implantation qui est un peu anarchique. Et puis, il n'existe pas de normes pour l'implantation des stations de service. On peut se faire comme ça, on est bien sur une station, on peut se faire. Donc, c'est pas
intéressant. Merci. D'accord, merci. Monsieur Eric Kassongo, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Notre ami veut savoir quelles sont les maladies qui sont provoquées par
les énergies fossiles.
Eh bien, je ne peux pas nommer ces maladies-là aujourd'hui, mais s'il y a une foule de maladies qui sont provoquées par la pollution atmosphérique, ça dépend de la substance qui vous contamine, ça dépend du taux de toxicité de la substance auquel vous avez été en contact. Il peut provoquer une maladie donnée. Mais tout ce que je peux dire, c'est que il est prouvé aujourd'hui scientifiquement que beaucoup de personnes meurent lorsqu'ils ont été en contact avec les produits chimiques dégagés par la combustion de charbon, par exemple. Alors, par rapport au dédommagement des sociétés qui polluent
l'environnement,
Il
semble qu'à Rwanda, par exemple,
la République démocratique du Congo est un état de droit, est un pays organisé avec des normes. Il y a des normes à ces sujets-là qui poursuivent les États, ou les entreprises plutôt, qui n'ont pas un comportement écologique, ainsi de suite. Il y a toute une politique qui est suivie notamment par les ministères de l'Environnement pour veiller à ce qu'il y ait moins de pollution là-dessus. Alors, des dédommagements, certainement qu'il peut y avoir, mais je ne peux pas confirmer ici que telle entreprise a été déjà condamnée, ainsi de suite. Tout ce que le monsieur doit savoir, c'est que le gouvernement suit de près. Il y a des services techniques qui sont chargés de suivre ce genre d'infractions. Alors, la fumée des véhicules, je ne dirais pas qu'il a un impact sur les aliments.
Les cultures maraîchères.
Sur les aliments que nous consommons directement, non. La fumée des véhicules peut provoquer la pollution atmosphérique. Et comme je vous ai dit, les diesels, les carburants brûlés par... Les diesels considérés comme carburant est responsable, la fumée qui se dégage des véhicules à diesel sont responsables des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est tout ce que je peux dire qui est responsable du réchauffement aujourd'hui.
Mais il semble que c'est là aussi un impact sur les cultures.
Bon, un impact sur les cultures, je n'ai pas connaissance des études qui ont abouti à de telles conclusions, mais si c'est possible... Ça peut toujours arriver, mais je ne peux pas confirmer ici sur ce plateau une telle affirmation.
Voilà. Alors, et Félix de Lubumbashi dit qu'il y a la prolifération anarchique des stations-service à Lubumbashi. Il veut savoir si ça peut avoir un impact sur la.
Félix doit se rassurer d'abord sur le fait que la RDC n'est pas menacée par les énergies fossiles ou par la pollution atmosphérique de la même manière que les nations développées. La prolifération des stations-service tient lieu à la manière dont les autorisations sont accordées pour les implanter. Si ils respectent les normes de sécurité, je ne pense pas qu'il y ait un danger quelconque pour la population. Et cette question-là de voir comment ils sont implantés partout relève de la politique provinciale, de l'autorité provinciale qui doit, dans le cadre de l'aménagement du territoire, voir quelle station doit être implantée, où et tout ça. Mais comme danger direct vis-à-vis de la population, je ne peux pas dire que l'implantation d'une station-service puisse a priori constituer un danger pour la population.
Rostine nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, on me dit que c'est Rostin et non Rostine. Hein.
c'est Rostin.
Voilà, Rostin, on vous écoute.
Oui, bon, j'ai très bien suivi l'invité, mais j'ai deux petites questions à poser. La première est celle-ci. Comme nous connaissons déjà les inconvénients des énergies fossiles sur l'environnement, quels sont alors les moyens de lutte que le spécialiste peut nous recommander sur la gestion de ces énergies? La deuxième question,
oui.
Comment utiliser alors ces énergies de façon rationnelle? Ce sont les deux questions que j'ai.
D'accord, monsieur Erika.
Merci beaucoup. Quels sont les moyens de lutte contre les énergies les fossiles? Je l'ai dit tantôt, c'est de songer à utiliser des énergies qui sont considérées comme durables. Ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies renouvelables. Mmh. Et il y en a légion. Chaque pays a la latitude de les implanter en fonction de ses moyens, en fonction de sa capacité à implanter soit des parcs éoliens, soit des parcs de panneaux photovoltaïques pour électrifier des villages et améliorer ainsi sa desserte en électricité et aussi fournir une autre forme d'énergie aux entreprises transformatrices qui sont basées au pays pour booster les développements. Et donc, les solutions sont les gens, tout dépend des politiques nationales dans les secteurs. Au jour d'aujourd'hui, en RDC, nous avons la Commission nationale de l'énergie qui réfléchit beaucoup sur cette question-là pour proposer au gouvernement congolais des possibilités de pouvoir virer vers les énergies renouvelables et donc répondre à cette question-là.
D'accord.
Alors, la deuxième partie de sa question, c'était...
Voilà, il n'est plus en ligne. Il a parlé des moyens de lutte. Sa deuxième question, je ne l'ai pas bien noté, dommage, désolé. Bon, peut-être que ça va revenir. Une autre question, Benoît Kabasele à Kinshasa dit, quelles sont les conséquences immédiates ou lointaines de l'utilisation des énergies fossiles dans les pays du tiers-monde, communément appelés pays en voie de développement?
Pour le pays en voie de développement, je dois le rappeler que nous sommes considérés comme victimes du réchauffement. Je dois rappeler que l'utilisation de combustibles fossiles à outrance dans les pays en développement provoque le réchauffement. Et le réchauffement climatique a des dégâts énormes sur les pays en développement qui n'ont pas le moyen suffisant pour s'adapter. Et donc, le premier dégât, c'est d'abord la dégradation des sols, des terres agricoles. Lorsque les terres agricoles se dégradent, l'agriculture n'est plus pratiquée de la manière à produire des aliments de qualité. Et donc, si l'agriculture subit un impact, la flore subit un impact, et ça provoque des maladies. Il y a des nouvelles maladies qui naissent, qui contaminent les plantes, qui font que ça a un impact direct sur la consommation et aussi un impact direct sur la qualité et la quantité des produits qui doivent être produits. Donc, il y a un problème de sécurité alimentaire qui se pose par rapport aux nations africaines qui sont, enfin, aux nations des pays de tiers-monde qui ne sont pas très, très développés.
D'accord. Merci, Monsieur Eric Kassongo. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre congolais pour le développement durable. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup, merci.